Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce de André Roussin, créée à Paris en 1966. Cette pièce s'appelle « La locomotive ». André Roussin est un Marseillais, il est né en 1911, donc dans la cité phocéenne. Il est mort en 1987. Il a été très vite metteur en scène, comédien. Et puis, il est devenu auteur à temps plein, jusqu'à ce qu'en 1973, il soit élu à l'Académie française. Parmi ses grands succès de théâtre, on peut citer La Petite Hutte, Les œufs de l'autruche, Bobos et Lorsque l'enfant paraît. Ce qui est étonnant, c'est que chaque fois, il a bénéficié du soutien d'interprètes hors du commun. Et c'est bien le cas avec La Locomotive, où il retrouve une comédienne exceptionnelle qu'il avait déjà fait jouer dans La Mama et dans La Voyante. Je veux parler d'Elvire Popescu, ou plutôt Elvire Popescu, née à Bucarest en 1894, décédée à Paris en 1993, pratiquement à la veille de ses 100 ans. De quoi s'agit-il dans la locomotive? On est dans un salon bourgeois à Paris et voici le début. Deux personnages, Sonia, jouée par Elvire Popescu, et son mari Ernest. À la création, c'était joué par Henri Crémieux. Ernest! Tu pourrais me répondre les mains quand je t'appelle. Je ne fais que ça. Si je crie, ça me fait tousser. Rien ne t'oblige. Résultat, j'ai l'angine. Une. Quoi? Pas l'angine. Une angine. Ce n'est pas au bout de 40 ans que tu vas dire que je vais dire une angine quand même. Ni apprendre à parler français. Tu devrais le savoir. Je dis l'angine, tu me comprends, ça suffit. D'autant plus que tu as une bronchite. Quoi? Une bronchite, pas une angine. C'est plus mauvais, c'est autre chose. Raison de plus. Qu'est-ce qu'il fait, Michel? Comment veux-tu que je le sache? Alors, j'ai un gendre, il est docteur. Je lui donne appartement dans ma maison, il habite au-dessus de chez moi. Je suis malade et il va en voir d'autres malades. Mais qui te dit? Qui me dit? Il est 11h. Il n'est pas dans son lit quand même alors. Si je suis malade, il pouvait s'arrêter chez sa belle-mère avant d'aller ailleurs. Il t'a vu hier. Hier, c'est hier. J'ai toussé toute la nuit et ce matin, c'est ce matin. Mais il n'est pas venu. Tu as pris tes remèdes. Quel remède? Ceux qui t'a ordonné. Mais ça sert à quoi, les remèdes? C'est la santé qui guérit, pas les remèdes. La santé, oui. La bonne santé, ça guérit tout. Mais être malade, c'est justement ne pas être en bonne santé, figure-toi. Ah! Encore un petit raisonnement de français. Un russe te dirait la même chose. Un russe me dirait que la bonne santé ne tue pas la maladie. Il te dirait que la bonne santé, c'est de n'avoir pas de maladie. Ça, d'accord. Et que si on est malade, on se soigne pour retrouver une bonne santé. Eh bien, moi, je dis que c'est la bonne santé qui est plus forte que la maladie. Et que le remède, si tu n'as pas la bonne santé, c'est le remède qui te tue. En tout cas, Michel t'avait dit de rester dans ton lit. Pourquoi faire ? Ça sert à quoi de rester dans son lit ? Tu m'as vu une fois dans mon lit, toi, avec la librairie et tout le travail ? Jamais. Aujourd'hui, c'est dimanche, la librairie est fermée. Dimanche. Dimanche, ça sert à quoi, dimanche ? Et si c'est dimanche, raison de plus. Pourquoi ? Pour que Michel, qui soit venu me voir. Les autres pouvaient attendre puisque c'est dimanche. Il doit être à l'hôpital. À l'hôpital. Alors, s'il faut qu'il aille à l'hôpital le dimanche, c'est ce que je dis, ça sert à rien. Quoi ? Que ce soit dimanche. Ah, quelle famille, mon pauvre ami, quelle famille. Et c'est le mari de ma fille. C'est lui qui me laisse mourir et qui va voir les autres à l'hôpital. Tu ne meurs pas. Tu le sais, toi, si je ne meurs pas. Moi, je sais quelle nuit j'ai passé à tousser tout le temps comme une poitrinaire. Oh, ma santé, vous me l'aurez tué petit à petit, ma santé. Et pour venir à bout de ma santé, il aura fallu que vous soyez fort. Mais vous y serez arrivés tous, tant que vous êtes. Tu es solide comme un chêne. Tu as entendu des chênes qui toussent toute la nuit ? Écoute-le, ton chêne. Il a un tronc comme une caverne. On dirait que je joue du violoncelle. Ah, Seigneur ! Mon Dieu, si j'avais su. Toi, tu t'en fous, naturellement. Tout le monde s'en fout. Et la conversation entre le mari et l'épouse continue. Et Sonia évoque un épisode de sa vie passée, elle est russe évidemment, et elle raconte son histoire d'amour avec Kostia. J'ai 17 ans. Kostia m'aime, j'aime Kostia, le plus beau, le meilleur chasseur, le meilleur cavalier. Il est le fils d'un régisseur. Mon père refuse le mariage. Alors Kostia m'enlève. Je brave toute la société de Bakou. Je fais scandale. Je m'enfuis. Ernest, avec les bijoux donnés par la marraine qui protège ton amour. Nous partons sur les plages de la mer Noire. Nous vivons le plus grand amour du monde. Mon père nous fait rechercher par la police. On se déguise, on achète les policiers, on évite les pièges, on se cache dans un couvent. La force de notre amour brise tout. Après 2 mois, mon père me fait savoir qu'il nous pardonne et qu'il accepte le mariage. Nous revenons. C'est la révolution Bakou en flamme, le pétrole en flamme, les maisons en flamme. Ta marraine violée, forcément. Mon père tué. Alors, départ avec Kostia, à travers toute la Russie, toujours dans la bourrasque de l'amour, jusqu'au jour où dans cette gare, Kostia me tient par la main. Il me lâche une seconde dans la foule. Une locomotive passe, la fumée nous enveloppe dans un grand nuage, et quand il s'envole, Kostia disparu, envolé lui aussi, comme un nuage de fumée, perdu dans cette foule, dans cette ville inconnue, dans cette nuit, disparu pour toujours, et 40 années à attendre de retrouver ce visage. Ça, c'est l'histoire d'amour de Sonia en Russie. Il se trouve que depuis 40 ans, plus de 40 ans qu'elle est mariée avec Ernest, elle lui ressort constamment la même histoire. Sonia, je te l'avais déjà raconté. Quoi? Mon histoire avec Kostia. À peu près 2000 fois. 2000? Alors, pourquoi tu me laisses à raconter si tu connaissais déjà? Parce que tu n'aimes que ça, je cherche à te faire plaisir. Tu veux dire que je radote? Tu te moques de moi et tu me laisses parler comme une gâteuse? Ah, je te remercie. Mais à moi, à Catherine, à ses enfants, depuis 40 ans, tu n'as jamais parlé d'autre chose que de Kostia. C'est le mythe de la maison. Nous sommes gavés de Kostia, imprégnés de Kostia. Nous sommes kostianisés autant qu'on peut l'être. Et nous avons tous respiré 100 fois la fumée de ta locomotive. Tu as même voulu me faire croire que Catherine était la fille de Kostia. Ah, c'est vrai, l'enfant de l'amour. Oh, j'aurais bien voulu te faire également plaisir, mais je n'ai pas pu te suivre. Pourquoi tu ne pouvais pas me suivre? Qu'est-ce que ça pouvait te faire que Katia soit sa fille? J'arrivais à Paris à 17 ans, folle, ruinée, enceinte. Non. Quoi non? Tu n'étais pas enceinte quand je t'ai épousée. Qui te l'a dit? Toi. Et tu m'as cru, j'attendais Kostia. Catherine est née 14 mois après notre mariage, et tu étais à Paris depuis 2 ans quand je t'ai épousée. Alors, elle ne peut pas être la fille de Kostia. Mais elle aurait pu. Bien sûr, elle aurait pu, mais elle aurait pu 3 ans plus tôt. Si elle aurait pu, ça suffit. Voilà comment vous êtes toujours les Français, avec des dates, des chiffres, possible, pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aime un homme, c'est avec lui qu'on a l'enfant. Pour moi, c'est lui son père. D'ailleurs, elle ne lui ressemble pas du tout, elle te ressemble. Mais qu'est-ce que ça change? C'est logique. C'est la logique même. Et voilà que dans ce ménage installé fort aisément dans la vie, va arriver quelque chose d'inattendu. Sonia, qui dirige une grande librairie, a été interviewée à la télévision et il se trouve que ce fameux Kostia qu'elle a perdu de vue depuis plus de 40 ans la voit à la télévision, lui écrit et arrive à Paris. Alors, avant l'arrivée de Kostia, je vous propose de prendre une pause. Je ne vous annonce pas la chanson, vous la connaissez certainement.
Очі страсні, очі жгучі і прекрасні, як люблю я вас, як боюсь я вас, значит, увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, увидел вас я в недобрый час. Очи черные, жгучие
Donc, Kostia arrive dans la famille de Sonia et de son mari Ernest, et très vite, il va se rendre compte, et les autres personnages également, que la si belle histoire de Sonia, cette histoire de la fumée de Kostia disparue dans un nuage de fumée, ne tient pas la route. Et voici le dialogue entre le mari et Kostia. Kostia, quand j'ai retrouvé Sonia avant déjeuner, pour la première fois depuis si longtemps, Sonia a demandé, j'ai demandé, Sonia, pourquoi m'as-tu quitté ? A répondu, je ne t'ai pas quitté, nous nous sommes perdus. Oui, dans une gare. Une locomotive en passant vous a enveloppé de fumée, et quand la fumée a disparu, vous aviez disparu aussi. C'est en effet ce qu'elle m'a toujours raconté. Oui, mais quelle gare ?
Quelle gare ?
Oui. Moi, je n'en sais rien, mais vous, vous devez le savoir. Jamais de gare.
Comprends pas.
Jamais dans une gare avec Sonia Ivanovna.
Jamais.
Jamais. Vous ne vous êtes jamais tenu par la main ?
Oui, mais pas à la gare.
Ni dans la foule ?
Foule ?
Jamais. Toujours à la campagne. Dans les bois, jamais dans la foule à la gare. Mais la locomotive, ce n'est pas comme ça que vous êtes perdu ?
Jamais perdu Sonia.
Sonia, partie.
Partie ?
Comment ça, partie ?
M'a plaqué.
Je vous demande pardon, mais la mer Noire, votre fugue, le couvent, la police qui vous poursuivait.
C'est vrai.
M'a raconté.
Mais ce n'est pas vrai.
Jamais, non.
Vous ne les avez jamais enlevés.
Vous n'avez pas fui tous les deux parce que son père refusait votre mariage.
Mais Sonia, pas de père.
Mort depuis longtemps.
Vous n'avez pas connu le père de Sonia.
Personne n'a connu.
Sa mère, toujours veuve.
Alors, quand Sonia m'a raconté ce matin, j'ai pensé, devenue complètement folle, elle raconte n'importe quoi. Et puis, m'a dit Katia était ma fille. Ça, très possible. Et vous ? Vous dites Katia née 1925, alors impossible. Pourquoi j'ai demandé si Sonia devenue folle, un peu folle.
Excusez-moi, j'ai besoin de comprendre. Le plus grand propriétaire des puits de pétrole,
à Bakou.
Oui, il n'avait pas une fille.
Oui, Varvara Igorovna.
Elle s'appelait Varvara Igorovna. Fille Igor Mikhailovich Tioplov.
Tioplov.
Monsieur Tiopov était le père de Varvara et c'était lui le plus grand propriétaire des pétroles de Bakou.
Oui,
et moi, fils naturel. Tiopov couché avec jeune paysanne, enfant, moi. Alors Tiopov marie ma mère avec régisseur, et moi, devenu fils régisseur général. Fortune Tiopov à moi, zéro.
Mais Sonia,
Sonia, fille, dame de compagnie, Madame Tiopov, vivait toujours avec Varvara dans somptueuse datcha.
Comprends tout maintenant.
Histoire de Sonia, c'est histoire de Varvara avec Grigori Petrovitch. Je ne comprends pas. Extraordinaire amour de Varvara et de Grigori Petrovitch. Mère noire, poursuite, couvent, connaît bien tout le monde. À Bakou, connaissait scandale, poursuite, enlèvement. C'est l'histoire de Varvara. Et Sonia m'a raconté comme si c'était l'histoire de nous deux, mais alors complètement folle.
Doucement, doucement, vous vous êtes aimé avec Sonia.
Oui, amour immense.
Vous ne vouliez pas l'épouser?
Oui, je voulais. Sa mère s'opposait au mariage, personne ne savait notre amour. Nos parents ignoraient. Sonia refuse, pas mariage. Amour clandestin. Sonia voulait toujours secret absolu. Après l'histoire, Varvara. Sonia un jour a dit, nous aussi, il faut enfuir. Moi, j'ai dit, fuir où? Sur la mer Noire. Mais pourquoi fuir, Marion? Pendant des semaines, toujours, fuir, fuir, et moi, niet. Et un jour, elle a dit, notre fugue, tu feras de force, et plus jamais vue. Elle vous a quitté après vous avoir dit cette phrase, plus voulu me voir, jamais. Revue ce matin, alors, elle ne vous aimait pas.
Oh oui,
amour immense. Et voilà donc, Sonia, confrontée malgré elle à une situation dont elle va se tirer, évidemment, avec brio. Mais je vous propose une ultime pause musicale avant de conclure.
Две гитары зазвенев жалобно заныли, детство помятны на пев, милый, это ты ли? Эх, раз еще раз. Где болит, ну, что болит? Алла вас похмелью. Сегодня пьем и тоже завтра пьем. Скоро. Thank you.
Et nous arrivons à la fin de la pièce de cette locomotive d'André Roussin. Sonia a compris que elle avait vécu jusque-là dans un rêve et on dirait quelquefois, on dirait vraiment que la vie se moque de nous. 40 ans d'amour pour ce fantôme et qu'est-ce que je retrouve, un vieux clown. Tu lui as montré sa chambre, il s'installe, il est heureux comme un roi. Tu crois qu'il est le fils naturel de Tiopov? Tiopov? Oui. Qui était Tiopov? Il ne t'a pas parlé de Tiopov? Non. Non? Vraiment, vraiment. Alors, ça aussi c'est une histoire dont nous ne parlerons plus jamais. Ernest, tu te rappelles la première fois que nous nous sommes rencontrés? Ah, c'était à la gare d'Auteuil. Mais non, Sonia, comment? Mais non, c'est ce que je dis quand même. Gare d'Auteuil, tu perds la mémoire. Alors toi aussi, tu ne veux pas te rappeler gare d'Auteuil, mettons. La vérité, c'est ce qui fait plaisir. Le troisième wagon s'est arrêté devant nous, tu m'as tendu la main pour m'aider à monter, et depuis 40 ans, sans jamais un drame, sans jamais une histoire, toi et moi, nous avons vécu la plus... Pourquoi tu me laisses parler toute seule et te raconter encore des histoires? Parce que tu aimes ça, et que la vérité, c'est ce qui te fait plaisir. Non. La vérité, c'est ce qu'on croit. Viens près de moi, Ernest. Je vous remercie de m'avoir écouté.